Bonjour et bienvenue en Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Yann.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Dans Espérance aujourd'hui, nous vous parlons de la Bible. Nous désirons approfondir votre connaissance de Jésus et vous faire connaître l'espérance qu'il apporte.
Yann s'est rendu chez notre invité Charles pour reprendre leur discussion sur l'image du berger à travers la Bible. Yann va d'abord rappeler l'essentiel de leur dernière discussion.
La dernière fois, nous avons vu que Jésus s'est présenté comme le bon berger promis par Dieu. Et en tant que bon berger, il est venu pour apporter la vie abondante à ses brebis, c'est-à-dire à ceux et à celles qui placent leur foi en lui. Nous avons découvert que cette vie abondante ne consiste pas en une abondance d'argent ou de biens matériels, mais en une nouvelle relation avec Dieu. Cet enseignement sur Jésus, le bon berger, se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, et une amie va commencer par la lecture de quelques versets.
Je vous l'assure, je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui rentre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, se sauve, lui, dès qu'il voit venir le loup, et il abandonne les brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, tout comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis.
Alors, je peux moi-même poser une question aujourd'hui. Lequel d'entre vous donnerait sa vie afin de sauver celle d'un animal qui lui appartient?
Je ne pense pas que beaucoup de personnes feraient une telle chose. Pour ma part, je doute fort de le faire.
Et pourtant, Jésus dit à deux reprises que lui, le bon berger, donnera sa vie pour ses brebis. Il faut comprendre que le métier de berger peut être dangereux. Il y avait en Israël des bêtes sauvages qui, pour se nourrir, venaient parfois attaquer les brebis des proies faciles. C'était le rôle du berger de les protéger. Toutefois, nous pouvons bien l'imaginer, si un berger se sentait en danger de mort devant des bêtes sauvages, telles que les loups, il en venait à abandonner son troupeau pour sauver sa propre vie. Il y avait aussi des brigands qui surgissaient dans l'espoir de voler les brebis. Là encore, le berger devait défendre son troupeau, et l'on peut supposer que nombre de bergers craignant de perdre la vie devaient s'enfuir sur le champ. En ceci, Jésus affirme qu'il est différent. Il est prêt à donner sa vie, à mourir, afin de sauver la vie des brebis qui lui appartiennent. Voilà un exemple d'engagement total, un modèle d'amour incomparable.
D'accord, mais nous avons ici une image. Que signifie-t-elle? Que devons-nous en apprendre?
Jésus introduit auprès de ses auditeurs l'idée qu'il doit donner sa vie pour les sauver. Nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose de grave, et ce salut devient possible grâce à la mort de Jésus sur la croix. Or, nous avons déjà expliqué que Jésus est venu pour apporter la vie abondante, qui consiste à connaître Dieu dans toute sa plénitude. Ici, il nous enseigne que pour recevoir cette vie abondante, il va donner sa vie.
Je vois que l'on entre maintenant au cœur du message de l'Évangile, mais je voudrais reprendre ces idées, une à une. Il faudrait les approfondir davantage. Tout d'abord, vous avez dit que nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose de grave. De quoi s'agit-il?
Oui, voilà une question très importante. L'idée qui se dégage ici est celle-ci. L'humanité ressemble à un troupeau de brebis dispersé loin du berger. Il est par conséquence en danger de mort.
Et comment les brebis, c'est-à-dire nous tous, en sommes-nous arrivés là?
Le prophète Isaïe nous aide dans cette compréhension, car il dit « Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun suivait son propre chemin. Une brebis qui se perd est une brebis qui n'écoute pas la voix de son berger. C'est une brebis qui refuse de le suivre. Une brebis qui pense qu'il s'en sortira par ses propres moyens, Alors, elle suit ses propres raisonnements pour finir perdue, piégée et devenir une proie facile.
Comment appliquer cette parabole à nos propres vies ? Quelle en est la leçon ?
Dieu est comme un berger qui trace un chemin pour l'humanité et qui s'attend à ce que les hommes et les femmes suivent ce chemin. Ce chemin est celui de la justice, de la pureté, de l'amour. Pour avoir une bonne idée de ce que Dieu attend de nous, nous pouvons lire la loi qu'il a révélée à Moïse. Toutefois, les hommes et les femmes refusent d'écouter Dieu et d'obéir à sa loi. Tous, sans exception, suivent leur propre chemin, leurs propres idées, souvent empreintes d'égoïsme, d'impureté, d'injustice et de méchanceté. Ainsi, ils s'écartent de Dieu. S'éloignant de lui, ils ne le connaissent pas et sont privés de la vie abondante qu'ils voudraient offrir. À cause de cet éloignement de Dieu, les hommes et les femmes sont perdus et désorientés. Ils tombent dans les pièges du mal et du malheur et sont condamnés à mourir. Voilà de quoi nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin d'être sauvés de nous-mêmes, de nos fautes, de toutes leurs conséquences. Nous avons besoin d'être sauvés de la mort et surtout du châtiment de Dieu qui consiste à mourir éternellement.
Oui, nous avons besoin de reconnaître la véritable condition de l'humanité. Et chacun a besoin d'admettre qu'il est comme une brebis perdue en danger de mort. Cependant, Jésus a dit qu'afin de nous sauver, il doit donner sa vie. Pourquoi cela est-il nécessaire ? N'y a-t-il pas une autre solution ?
Lorsque Jésus dit qu'il va donner sa vie, il évoque les événements qui vont amener sa mort sur la croix. En disant qu'il va donner sa vie, Jésus montre que sa mort est un acte volontaire. Il s'est livré délibérément à telle sorte dans un but bien précis, celui d'accomplir une œuvre de salut.
Mais pourquoi fallait-il que Jésus donne sa vie ? Et en quoi notre salut est-il lié à sa mort ?
Dieu, pour être juste, se trouve dans l'obligation de punir le mal, les fautes de chacun et chacune. Nous avons vu que les hommes et les femmes s'éloignent volontairement de Dieu et de sa volonté et se rendent ainsi coupables à son égard. Alors Jésus, en accord avec Dieu son Père, s'est proposé de subir lui-même le châtiment qui devait tomber sur ses brebis. Cela, il l'a accompli sur la croix. Innocent, il a subi la peine du coupable. C'est ainsi que Dieu peut pardonner nos fautes et nous pouvons retrouver par la foi la vie abondante qui consiste à le connaître.
Nous voyons alors que Jésus est vraiment le bon berger, un berger incomparable. Non seulement il a de la compassion pour les brebis égarées, mais son amour le conduit à payer le prix ultime, le prix qui seul peut assurer notre salut, car il donne sa vie sur la croix. Merci Charles d'avoir si bien éclairci ces versets. Bien avant les événements qui ont conduit Jésus à donner sa vie sur la croix, des prophètes avaient prédit sa mort. Notre invité Jean-Luc va nous parler de l'une de ces prophéties, celle prononcée par Siméon lorsqu'il prit l'enfant Jésus dans ses bras. Écoutons d'abord le récit biblique, lu dans l'évangile de Luc au chapitre 2, versets 28 à 32.
« Tu as tenu ta promesse et mes yeux ont vu ton salut, lumière pour éclairer les nations. » Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés par ce que Siméon disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie sa mère, « Sache-le, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. »
Nous réfléchissons à la prophétie donnée par Siméon quand il a pris l'enfant Jésus dans ses bras. Au premier abord, on pourrait conclure que cet enfant aurait un bel avenir, car Siméon dit de lui qu'il sera un sauveur et une lumière pour toutes les nations. En lisant cela, nous pouvons imaginer la réussite future de ce fils, ainsi que la gloire et la renommée qui lui seront attribuées. Toutefois, à la fin de son discours, Siméon s'est adressé à Marie pour lui dire « Quant à toi, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. » L'Esprit de Dieu permit à Siméon de comprendre que Jésus accomplirait sa mission, non de façon triomphaliste, mais dans la douleur et dans une apparence d'échec. Nous connaissons la suite. Jésus a accompli des prodiges et des miracles. Il a connu l'acclamation des foules. Toutefois, il rencontra aussi l'opposition et la trahison. Injustement accusé, il fut condamné à mourir sur une croix. Marie a vu de près la crucifixion de son fils Et effectivement, tout comme les clous ont transpercé les mains et les pieds de Jésus, la souffrance a dû transpercer le cœur de sa mère. Certains d'entre vous, qui ont vu succomber un proche, un fils, une fille, compatiront à la douleur de Marie. Devant la mort de Jésus, nous pouvons nous demander « Pourquoi ? Pourquoi les choses ont-elles ainsi mal tourné ? Pourquoi s'acharnait-on contre lui ? Pourquoi Dieu a-t-il permis une telle fin ? La cruauté des hommes est-elle réellement plus forte que la grâce de Dieu ? » Mais alors que tout semblait terminé et tout espoir brisé, 3 jours plus tard, Jésus ressuscita d'entre les morts. Dieu déclarait ainsi que Jésus est le Seigneur de l'univers. Une issue donc heureuse et glorieuse, mais qui ne supprime pas la question « Pourquoi la vie de Jésus a-t-elle été ponctuée de tant d'injustices et de souffrances ?» Selon la Bible, il ne pouvait en être autrement. Pour qu'il soit le Sauveur du monde, il fallait que Jésus vive cette épreuve. Il l'a fait volontairement, par un amour pour ceux qui croiraient en lui. C'est sur la croix que Jésus a accompli son œuvre de salut, car il a pris sur lui le poids de notre péché, subissant la condamnation et la colère de Dieu contre ce péché, afin de nous épargner un tel sort. Aujourd'hui, si nous pouvons jouir de tant de bénédictions de la part de Dieu, nous devons nous en réjouir. Mais nous ne devons jamais oublier à quel prix ces bénédictions nous sont parvenues. C'est au prix d'une souffrance inimaginable, une souffrance endurée par amour et par la détermination à nous sauver. Que chacun soit sincèrement reconnaissant envers le Sauveur du monde.
Aujourd'hui, nous avons parlé de la mort de Jésus-Christ qui représente le point capital du message de l'Évangile.
La mort de Jésus n'est pas la conséquence d'une simple tragédie humaine due à la méchanceté et l'injustice des hommes. Jésus ne serait pas alors un cas unique, car malheureusement trop de personnes meurent encore aujourd'hui, victimes de la cruauté d'hommes violents. Pourquoi donc s'arrêter à la mort de Jésus? Car sa mort n'est pas un accident de l'histoire, elle n'est nullement le fruit du hasard. Loin de là, elle résulte du plan conçu par Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. Un plan conçu au commencement de toutes choses, un plan conçu pour sauver l'humanité des conséquences de ses propres fautes. Jésus a volontairement donné sa vie. Il s'est lui-même livré entre les mains d'hommes injustes. Il a choisi le chemin de la croix, par amour pour nous, car il nous aime tant qu'il veut nous voir réconciliés avec Dieu. Or, pour connaître la paix de Dieu, il n'existe pas d'autre moyen.
Jésus a donné sa vie pour vous. Avez-vous accepté ce cadeau? Avez-vous reçu toutes les bénédictions merveilleuses qui en découlent? Jésus nous invite à croire à ce qu'il a fait pour nous. Il nous invite à saisir ses bénédictions par la foi.
Nous espérons vous retrouver lors de notre prochaine émission d'espérance aujourd'hui. En attendant, nous vous disons au revoir et que Dieu vous bénisse.